Merci. Moi, je vais vous proposer une rencontre entre l'histoire et la mémoire dans un espace particulier. Ça rejoint un petit peu les propos de Jacques Semmelin qu'on a eu hier, et c'est dommage qu'on n'ait pas de synergie entre ses propres remarques. C'est vraiment de l'histoire, je crois qu'il a utilisé l'expression « au ras des pâquerettes », c'est
oui,
ça, hein,
oui, oui.
C'est-à-dire dans un espace parfaitement ciblé et avec une série d'enquêtes qui ont été menées ces dernières années, dont je vous donnerai quelques résultats. Ce qu'on appelle le Grand Centre-Ouest, pour aller vite, est un espace intéressant pour les historiens pendant la guerre, puisque c'est toute la partie qui se situe de part et d'autre de la ligne de démarcation. Hein, tout le monde a en tête la ligne de démarcation, ce grand trait qui remonte du sud et qui bifurque soudain pour repartir dans l'autre sens. Donc la région administrative de Vichy, qui est la région de Limoges, est complètement coincée dans cet angle. Et de l'autre côté, on trouve les départements qui ont été séparés en deux, autrement dit, toutes les Charentes et le Poitou qui s'étendent jusqu'à la mer. Alors, c'est une région extrêmement intéressante, une région d'études extrêmement intéressante pour les propos qui nous occupent, pour trois raisons au moins. D'une part, c'est la zone dans laquelle on a évacué toute l'Alsace-Lorraine, ainsi qu'une partie de la Moselle, et dans laquelle vont se retrouver soudain des populations extrêmement nombreuses dans des départements dits d'accueil, dans lesquels on les affecte. Et parmi ces populations mosellanes et alsaciennes, bien sûr, de très nombreux juifs. C'est ensuite une région qui va accueillir tous les réfugiés, ceux d'avant l'Exode et ceux d'après l'Exode, des réfugiés qui viennent de Paris, bien sûr, du nord de la France et aussi de la Belgique, et parmi eux, quantité de juifs étrangers qui fuient à toute vitesse la partie nord de la France et qui vont s'installer, se stabiliser dans ce grand centre-ouest. Si vous ajoutez à cela le fait qu'avant la guerre, juste avant la guerre, dans les années 37, 38, 39, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, privilégie cette région pour installer ses hommes d'enfants. C'est une des parties de la France qui a le plus grand nombre de maisons d'enfants. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, on verra peut-être dans les débats si vous avez des questions sur ce point, mais il y a là de vastes châteaux qui ont été soit loués, soit achetés par l'OSE et dans lesquels on installe des colonies d'enfants qui comptent en moyenne 400 à 450 enfants. Limoges est aussi le lieu d'installation d'une pouponnière extrêmement importante et quantité d'organismes juifs qui viennent soit d'Alsace, soit de Paris, installent aussi dans cet espace centre-ouest diverses structures de secours ou diverses structures de nature religieuse. Limoges abrite ainsi un petit séminaire israélite qui est le seul qui va fonctionner de façon continue pendant la guerre. Et bien entendu avec un personnel juif qui fait fonctionner tout cet ensemble. Alors vous voyez où je veux en venir. Il n'y avait pratiquement aucun juif dans ces espaces avant 1940. Nous avons essayé de compter ceux qui s'y trouvent en 1942, de faire au moins une statistique qui tienne la route, et je suis arrivé au chiffre de 27 000, ce qui est quand même considérable. C'est-à-dire qu'on passe de 0 à 27 000 juifs installés dans un ensemble de départements qui ne dépasse pas 10 ou 12 unités. Pratiquement tous ces juifs vont rester, puisque lorsque les gens du Nord repartent, que ce soit les Alsaciens ou que ce soit les réfugiés, eux se méfient, il y a beaucoup de juifs étrangers, je vous l'ai dit, et s'installent finalement dans la région. Ils s'y installent volontairement ou ils s'y installent de façon contrainte, puisqu'une des dernières particularités de cet espace, c'est qu'elle a un très grand nombre de GTE. Les GTE, vous savez, c'est ces groupements de travailleurs étrangers, c'est la suite des CTE, les compagnies de travailleurs étrangers qui avaient abrité précédemment les républicains espagnols. Donc il y a des juifs libres, je vais le dire comme ça, des juifs internés dans ces GTE, des juifs internés dans les centres du SSE. Le SSE, c'est le service social des étrangers, c'est des sortes de camps ouverts, pour aller vite, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, dont les familles s'installent autour, c'est-à-dire qu'il y a seulement un membre de la famille qui est assigné à résidence ou interné, et les autres sont autour. Autrement dit, une très forte densité de population juive dans un espace qui était relativement cohérent pour qu'on puisse y mener une étude qui me semblait pertinente, d'autant plus qu'à partir de 1990, le nombre de justes dans cet espace se démultiplie littéralement. Entre 1973 et la fin des années 80, il y avait eu très peu de remises de médailles de juste, à peu près 20% d'un ensemble de médailles qu'on estime aujourd'hui pour les espaces dont je vous parle, entre 300 et 350, parce que tous les chiffres ne sont pas exacts. À partir de 1990, c'est 4, 5, voire 6 remises de médailles au milieu des années 80 qui se font par an dans la plupart de ces départements. Donc une véritable explosion mémorielle à travers ce phénomène des justes. Et le phénomène n'a fait que s'amplifier depuis les années 2000. Alors, il y a un ratio mathématique, hein, on est bien d'accord, de très nombreux juifs et de très nombreux sauveteurs. Bon. Mais ça ne suffit pas, je crois, à expliquer un phénomène qui est en train de prendre une toute autre ampleur, dont je voudrais dire deux mots maintenant. Ce qui m'a frappé, alors j'ai suivi toutes ces cérémonies, ou la plupart, pas toutes, rassurez-vous, mais la plupart, ce qui me frappe, c'est depuis le milieu des années 90, une évolution considérable de ce phénomène de remise de médailles de juste, et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce matin, parce que je trouve que c'est probablement une des évolutions qui est en train de se dérouler sous nos yeux et dont je ne voudrais pas qu'elle nous échappe. Je vous ai présenté quelques cérémonies. Alors voilà comment se présentent la plupart de ces espaces ruraux du centre-ouest. Vous comprenez pourquoi beaucoup de familles juives sont restées. Ça, c'est un tout petit village de Creuse qui s'appelle Lupersa. Dans les années 40, Lupersa n'est pas desservie par une route goudronnée. C'est encore un chemin de terre. C'est donc à l'écart de tout. Et trouver refuge, hein, si on emploie cette expression, dans des villages de cette nature, c'est vraiment trouver refuge dans des villages de cette nature. C'est-à-dire qu'il est même difficile pour la police, difficile pour la gendarmerie, et bien sûr pour l'occupant allemand à partir de 42, de se rendre dans des lieux qui sont des lieux à l'écart. Vous remarquerez, détail important, que c'est une photo d'aujourd'hui, et ce village n'a absolument pas changé. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on voyait dans les années 40. Et vous allez voir que c'est très important aujourd'hui pour les processus de remémoration au moment de ces remises de médailles. Voilà la mairie, l'école, enfin vous savez, le triptyque dans lequel de nombreux enfants juifs ont été scolarisés et qu'ils retrouvent aujourd'hui dans l'état où ils les ont trouvés à l'époque. Alors, ces cérémonies sont extrêmement nombreuses. Je vous passe quelques photos, je vais y revenir tout à l'heure. Voilà un exemple de cérémonie à Condat-sur-Vienne. Condat-sur-Vienne, c'est en Haute-Vienne. Dans les années 90, au tout début des années 90, les cérémonies étaient pratiquement transparentes. C'est-à-dire qu'on assistait à des cérémonies très simples, au cours desquelles les médailles étaient remises souvent en mairie, en l'absence des récipiendaires à qui on les faisait passer, en quelque sorte. À partir des années 90, les cérémonies prennent une tournure extrêmement différente. Ce sont vraiment des cérémonies très importantes, en présence du maire, regardez des drapeaux, une foule compacte. Dans cette cérémonie-là, il y a autant de gens à l'extérieur qu'il y en a dans la salle. Ça c'est le récipiendaire. L'aspect festif prend le dessus, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, la cérémonie est une fête au cours de laquelle on présente bien sûr les diplômes, c'est un autre endroit, Saint-Jules-Martel, et où au recueillement, je voudrais essayer de trouver, voilà, on filme énormément, on photographie, toutes ces images vont être mises sur le net et vous allez voir que ça va avoir des conséquences par la suite, il y a une sorte d'effet boomerang. On décore les Mariannes, chose qui n'existait pas dans les années 90, alors j'ai pas pris la meilleure photo que j'avais, mais cette Marianne-là a une écharpe et un bouquet de fleurs, il arrive quelquefois que tout le sommet du visage de la Marianne soit décoré. Autrement dit, la République est en train de rentrer en scène dans ces nouvelles cérémonies, ce qui n'était pas du tout le cas avant. La présence de France-Israël est maintenant constante. Vous avez là sous les yeux le délégué de France-Israël pour je ne sais plus quel département. Et ils sont extrêmement présents dans l'organisation des cérémonies, alors qu'ils étaient absents au début des années 90. Chose intéressante, voilà, la présence des petits-enfants qu'on ne voyait pas au début des années 90 et qui très souvent vont être maintenant les lecteurs des textes. ça n'est plus tant les familles qui vont remercier que la troisième génération qui s'implique dans des discours assez émouvants, construits de façon complexe, puisque le petit-fils ici fait l'apologie en fait de la grand-mère, sans que l'on sache exactement quelles sont ses sources ni qui a constitué le texte. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, on y reviendra tout à l'heure. On remet des cadeaux, voilà une cérémonie à Couvex, au cours de laquelle le maire a fait fabriquer un émail d'un coût assez élevé, peu importe, mais c'est pour vous dire que ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant la fin des années 90. Ces cadeaux sont échangés, soit entre les familles des récipiendaires, soit entre les familles des enfants qui remettent ou ont demandé la remise des médailles. On présente des photos. Alors, j'en avais quelques-unes excellentes au début, qui est une vraie bénédiction pour les historiens. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On affiche sur les murs, et c'est une petite cérémonie, ça, dans cette mairie. On affiche sur les murs des photos d'époque, qui ont été demandées par les historiens pendant des années. On ne nous a jamais rien donné. C'est pour ça qu'on va à toutes les cérémonies, parce que c'est là qu'on trouve maintenant la meilleure source et la plus directe. Ah oui, ce sont des panneaux extrêmement simples, dans lesquels on va présenter la famille et en général, bien sûr, au sein de la famille, l'enfant qui a été accueilli ou caché, la grand-mère qui a un peu vieilli, mais c'est une photo des années 70 qui a été rajoutée. Vous noterez à l'arrière, même si ça vous paraît un petit peu anecdotique, mais ça ne l'est pas, la qualité du papier, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a un effort qui a été fait pour présenter ces photos. C'est pas anodin, tout ça. Il y a vraiment du sens qui est donné. C'est pas du bricolage, même si ça y ressemble d'une certaine façon. Dernière chose que je vais vous montrer, dans cet ensemble un peu disparate, et je m'en excuse, mais je l'ai monté hier soir à la va-vite. Tout ça, vous le connaissez. La présence de tous les élus. Vous avez là une très belle brochette. Alors, on n'aurait jamais vu autrefois... On aurait vu le maire, bien sûr, mais maintenant c'est le maire. Là, c'est le président du conseil régional, le président du conseil général, et vous avez à l'arrière les deux sénateurs et les trois députés. Et tous vont faire un discours, et alors en voilà un très bel exemple, et un discours qui maintenant supplante complètement le discours des représentants de Yad Vashem ou le discours des représentants officiels. Et ces discours sont loin d'être des discours creux. On voit qu'il y a eu un travail de recherche à l'arrière, et on revient ici sur quelque chose dont on a parlé un petit peu hier, c'est sur la manière dont ces cérémonies deviennent maintenant quelque chose d'universel au fond. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation à la fois par le local mais aussi par le politique, pour un discours universel sous les yeux de la République décorée, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez une belle idée de la foule aussi ici. Bien sûr, les enfants des écoles sont là. Je dis bien sûr parce que c'était pas évident à la fin des années 90. Maintenant, ils sont présents, la plupart. Tous lisent un texte ou chantent. J'ai même vu une cérémonie où un ensemble de classes, et je crois qu'il y en avait 6 ou 7, avait décoré, c'était un gymnase un petit peu comme celui-là, l'ensemble des murs avec ce qu'ils avaient appelé eux-mêmes des messages d'amour. Donc vous voyez, on change d'échelle, on n'est plus simplement dans la République, et à la fin de l'ensemble des messages, il y avait cette petite phrase qui avait dû être rajoutée probablement par l'enseignant, ces messages sont à l'honneur de l'humanité. Donc il se passe bien quelque chose de plus important, en tout cas, que ce qu'on voyait précédemment. Deuxième évolution, Coulounier-Chamier. Alors, Coulounier-Chamier, c'est le sud de la Dordogne. C'est les remises multiples de médailles et de diplômes. Vous voyez très bien sur la photo, les diplômes sont sur une petite table. J'ai été à cette cérémonie de Coulounier. Il y avait plus de 300 personnes. Cérémonie qui était considérable et qui avait énormément d'ampleur, beaucoup de porte-drapeaux, beaucoup d'invités d'associations d'anciens combattants. Et voilà, c'est celle-là que je cherchais, et une présentation donc des diplômes et des médailles. Alors ce jour-là, on a remis 14 médailles, 12 au cours de la cérémonie et 2 dans la soirée, un petit peu en marge du village. Alors, c'était intéressant dans la mesure où il y avait ici, au fond, le désir d'honorer tout un village à travers un certain nombre de justes. Autrement dit, la cérémonie des justes, et maintenant, et je suis heureux que vous ayez dessiné ce modeste schéma, mais parce qu'il va nous servir, on voit qu'on est en train de déborder sur ces marges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, finalement, remettre la médaille à tout le monde. Alors, on va user d'un procédé un petit peu différent pour étendre par ce type de cérémonie-là. Et puis, une évolution que je voudrais souligner, au-delà des médailles des justes, et là nous sommes dans le troisième, dans les potentiels et les sauveteurs. C'est bien hein, que vous ayez décidé ça, parce que il y a un moment où on ne peut plus remettre la médaille, soit parce que le dossier n'est plus suffisant, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, soit parce que on n'a pas les éléments, on n'a plus les éléments, on n'a plus les porteurs de mémoire. Et dans ce cas-là, et ça me frappe, depuis 2004, moi j'observe ces cérémonies, on va contourner le problème de la médaille des justes. C'est-à-dire on va faire comme si on remettait une médaille, au fond, mais dans un autre type de cérémonie. Châteauneuf-la-Forêt, c'est toujours dans la même région. À Châteauneuf-la-Forêt, ça se passe comme une remise de médaille de justes, mais regardez bien, ça n'est pas une médaille, c'est une plaque qui va être apposé sur un des bâtiments de la commune, je peux peut-être essayer de la grossir, voilà, aux nombreuses familles juives, réfugiées, voilà, à Châteauneuf-la-Forêt, pourchassées et traquées par le nazi et le gouvernement de Vichy, les familles purent échapper à la rafle du 6 avril, etc., et furent sauvées grâce à la bienveillance et au courage des habitants. Les descendants de ces familles tiennent à honorer ces citoyens qui, en pleine connaissance des risques encourus, on retrouve le vocabulaire hein, des cérémonies classiques. Mais ici, il n'était pas possible de faire une cérémonie de type classique. Alors, on fait ce type de cérémonie-là. Et ça, c'est une vraie tendance, j'aime pas le mot, mais depuis 2004, ça se multiplie dans les espaces du centre-ouest. Ça va quelquefois de pair avec un monument. Alors, je sais pas la photo ici. Bon, la cérémonie, vous voyez, a la même allure. Les enfants des écoles, les associations, les élus, etc. Des remises de cadeaux, c'est très émouvant. Souvent une fête, c'est-à-dire une véritable fête de la musique. Ça peut être des chants, des danses. Et ça répond, je crois, au désarroi, hein, qui est un vrai désarroi d'un certain nombre de gens qui ont été cachés, qui ont été sauvés et qui n'arrivent plus à rentrer dans le processus des justes. Et comme ils n'y arrivent plus, ils passent sur les marges et les cérémonies finissent par se confondre, à tel point d'ailleurs que la presse elle-même s'y trompe et relate des remises de médailles de justes qui n'en sont pas. Alors, on fait quelquefois venir un... Le maire en rajoute, si je puis dire, fait quelquefois appel à un sculpteur. Et très souvent, en plus de la plaque, on a maintenant une œuvre d'art qui s'inscrit dans le cadre communal. Dernier exemple, mais je n'ai pas de photo pour vous le montrer, c'est les remises de Légion d'honneur, qui à mon avis est une autre forme de passage sur les marges. Là aussi, il n'y a pas de remise de médaille, puisqu'elle a déjà été remise. Donc, c'est comme si on reprenait le dossier des justes honorés dans les années 80, et dans les années 2000, en plus de leur médaille de justes remise 30 ans plus tôt, on leur donne la Légion d'honneur. Alors, c'est venu après l'initiative de Jacques Chirac, mais là, ce sont les préfets qui prennent cette initiative. Autrement dit, ce sont bien les initiatives locales, et on crée comme ça une seconde cérémonie permet de remettre en avant ces parcours de justes des années 80-90 qui n'avaient donné lieu à aucune cérémonie. Hein, autrement dit, une sorte de réactivation du processus mémoriel. Et puis vous avez un dernier cas que j'ai observé, que je trouve intéressant aussi. C'est un cas que j'ai pris à Marcillac-la-Croisille, c'est en Corrèze. Une sorte de rencontre, je vais l'appeler comme ça, de tous les survivants de tout un espace, donc on va prendre un espace qui peut être de nature plus que communale, presque cantonale, qui fait le choix d'un village, qui est le chef-lieu de canton en général, ou d'un bourg, et qui va en une journée, alors ça se passe en général tout au long, ça commence à 9h le matin et ça se termine le soir, va rendre hommage à tous les habitants de l'espace considéré par les familles qui ont été, qui ont passé ici des jours. Alors, je reviens pas aux travaux de Semelin d'hier, qui ont été soit dissimulés, soit qui simplement ont traversé la guerre de façon tranquille, hein, au fond. Et dans ce cas-là, ça donne une fête qui prend un autre aspect. On invite des personnalités. Alors à Marcillac-la-Croisille, je vous cite celle-là. C'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire. Moi, j'observe ce qui se passe. Après, on en tirera un certain nombre de choses. C'est une fête qui a été mise en place au nom du silence des habitants de cette région. Région désignant un espace intercommunal. C'est-à-dire que les gens n'ont rien dit. Et nous avons souhaité, dit l'organisateur, donc au nom de tous les Juifs qui étaient réfugiés là, inviter aujourd'hui Michel Drucker, qui a vécu le même parcours. Je vous rappelle que Michel Drucker vient d'une famille de Juifs roumains, et que dans les espaces qui nous concernent, il y a de très nombreux Juifs roumains qui suivaient des études de médecine à la faculté de Limoges. Donc, c'est pas exceptionnel que Michel Drucker soit là. Enfin, il est là, bien sûr, en tant que personnalité médiatique, mais il y a aussi du sens à sa présence. Et toute la journée, bien entendu, a été organisée autour de la présence de Michel Drucker, et vous vous doutez bien du phénomène médiatique. Autrement dit, on a été là tout à fait sur la marge des sauveteurs par un procédé qui est tout à fait nouveau et qui est extrêmement performant. Puisque certaines remises de médailles de juste passaient complètement inaperçues, là, en une journée, avec un animateur de télévision, vous rendez hommage pratiquement à la taille de deux cantons, des sauveteurs de deux cantons. C'est quand même un procédé assez étonnant. Alors, je voudrais dire, puisque je vous ai dit, on est un peu à la rencontre de l'histoire et de la mémoire, à force d'observer tous ces phénomènes, et d'assister à ces cérémonies, et aussi de travailler, parce que je suis quand même historien, et que je travaille un peu à l'université, on a fini par constituer un corpus absolument considérable de témoignages, car un des avantages de ces cérémonies pour les historiens, au fond, c'est qu'on y rencontre tout un tas de gens qui sont prêts à raconter tout un tas de choses, et tout un tas de gens qu'on ne rencontre pas habituellement, avec lesquels donc on peut prendre langue, tout simplement, et refaire un vrai travail d'histoire, qui est un travail de recueillement de témoignages, d'échanges, et par la suite, d'étoffement d'un corpus qui est le corpus des justes. Alors je vais en dire deux mots. Tout le monde connaît les corpus de justes, vous savez, toutes ces notices que l'on fait sur les justes, et ces dossiers qui constituent au fond une base archivistique intéressante. Les corpus de justes ont ceci de particulier, qu'ils n'ont aucune cohérence. Hier, j'ai été frappé, il y avait un document que vous aviez empilé là à propos d'un dossier de justes, je pense, que vous utiliserez plus tard. Vous le regarderez, vous verrez exactement ce qu'est un dossier incohérent, au fond. Or, vous savez qu'en prosopographie, si on veut faire de la vraie prosopographie, il faut avoir des corpus qui tiennent la route. Hein, la prosopographie, c'est 15 entrées qui sont rigoureusement, 15 ou 20 ou 10, qui sont rigoureusement les mêmes pour qu'on puisse avoir une étude qui tiennent la route. Ces corpus sont incohérents, donc moi je crois qu'il faut y accorder beaucoup moins d'importance qu'on y en a accordé jusqu'à présent. Bien sûr, vous allez retrouver des catégorisations. Alors, moi j'ai fait tout ce travail, c'était un petit peu le sens de mon exposé jusqu'à hier soir, et puis j'ai décidé de le changer complètement parce que je me suis dit, je vais vous abrutir de chiffres et je crois que ça va pas tenir la route. Mais grosso modo, quand vous analysez ces corpus, vous y trouvez quatre grandes figures de sauveteurs. Vous y trouvez les petites gens, je vais dire pour aller vite, mais c'est pas péjoratif. Vous y trouvez les grandes figures de la résistance, les plus ou moins grandes figures de la résistance. Vous y trouvez les milieux catholiques, que ce soit des couvents ou que ce soit d'autres établissements de nature religieuse. Et puis vous y trouvez toutes les institutions laïques, les écoles, les établissements d'enseignement, quels qu'ils soient, et un certain nombre de gens qui relèvent de la fonction publique. C'est en gros les quatre catégories auxquelles vous allez aboutir. Moi, je crois qu'il faut dépasser cela maintenant. Ces typologies-là, on peut les faire. On le fait mal, parce que je vous dis, nos corpus ne sont pas assez cohérents. L'exemple que vous avez photocopié, là, est tout à fait remarquable. C'est-à-dire, une fois qu'on le lit, on a quatre fois plus de doutes qu'avant qu'on soit rentré dedans. C'est-à-dire qu'on se dit, mais au fond, est-ce qu'on est en présence d'un juste ou pas? Enfin, il m'a vraiment frappé. Moi, ce qui me frappe, c'est trois choses, quand on fait une analyse un petit peu à un autre niveau. La première chose, c'est ce que j'appellerais la sauvegarde quotidienne de quantité de familles juives, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes, liées à des rapports humains très simples au fond. quels que soient les gens que vous avez sous les yeux. Dans les espaces qui ont été l'objet de cette étude, au fond, beaucoup de familles juives ont rencontré des familles non juives dans des circonstances extrêmement simples, au marché, sur la route à un moment où on se réfugie, on ne sait pas où aller, on s'arrête dans la ferme d'à côté, entre femmes, dans des solidarités qui se font autour du lavoir, autour de l'épluchage des légumes, autour de tout ce que vous voudrez, autour de la vie quotidienne, tout simplement. Et finalement, quelquefois, il n'y a pas forcément besoin de se poser les questions que l'on se pose en matière universitaire prosopographique classique, c'est-à-dire de savoir si le sauveteur a tout un passé antérieur complexe de formation militante ou pas. Alors ne me faites pas dire que tout ça n'existe pas. Bien sûr que quand on regarde des gens comme, je sais pas, Edmond Michelet à Brive, ou le pasteur Chaudier à Limoges, ou des gens comme ça, bien sûr que derrière il y a toute une approche militante et humaniste. Mais il y a aussi, chez quantité de gens, une approche humaine très simple, au fond des sentiments fraternels, une empathie avec les gens qu'ils accueillent, et tout ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je crois tout à fait, comme le disait Samelin hier, qu'il faut revenir effectivement au ras des pâquerettes et redémonter tous ces dossiers et bien les regarder. Je rajouterai que, d'une manière générale, dans les espaces qui nous concernent, on ignorait ce qu'était un juif. Il faut quand même le redire. L'antisémitisme, et on manque de travaux là-dessus, mais n'y a pas cours, ou pratiquement pas. Je vais vous citer une anecdote. Limoges a une antenne du commissariat général aux questions juives, qui est une des pires de France. C'est là que font leur classe deux tristes sbires de Vichy, qui sont Dupont et Antignac. Que l'on retrouvera ensuite, Antignac, c'est le futur directeur de cabinet, il est chef de cabinet puis directeur de cabinet de Darquier de Pellepoix. Donc il a fait ses armes à Limoges avant de finir chez Darquier, et c'est le futur directeur, tu parlais de la SEC tout à l'heure, de la section, la SEC c'est la suite de la PQJ pour aller vite, la police aux questions juives, de toute la zone sud. Et Antignac à Limoges veut faire du chiffre. Autrement dit, il a une obsession du fichier, le fichier de ce grand centre-ouest de la région de Limoges, est vraiment un des fichiers les plus fournis en matière de mise en liste des juifs. Il a un service de la réalisation économique qui est un des pires de France. C'est le deuxième après celui de Grenoble, je crois, en nombre d'affaires qui sont traitées. Et il dépose un projet qui, heureusement, n'a pas eu de suite, mais d'instauration dans tous les départements de France de camps spéciaux pour les juifs, qui aurait été donc ainsi regroupé avant même que l'on parle de ce qui va être l'internement par la suite. Bon, en plus, Limoges a le record pour les spoliations. Antignac a, avec Lyon, je crois, le taux de spoliation le plus élevé. Or, ce type de politique produit exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que dans cette région, avec un commissariat général aux questions juives, terrible, un Antignac déchaîné, dont la presse relaie quotidiennement les délires, on obtient l'effet exactement contraire. Plus le commissariat général aux questions juives agit, plus la police aux questions juives se prononce, et plus les gens deviennent hostiles à des comportements de ce type. Donc, la base antérieure, l'ancrage, si vous voulez, républicain antérieur, l'absence de l'antisémitisme, une vieille tradition de gauche et d'un catholicisme social, je suis d'accord, tout ça, bon, toutes ces catégorisations-là, vous les connaissez, jouent leur rôle, mais il y a aussi, tout simplement, je crois, même si cette expression va vous surprendre un petit peu, un tas de braves gens qui, au fond, ont une conscience, une réelle conscience du bien et du mal, on va dire, pour aller vite, et qui agissent en conséquence. Et tout cela fonctionne relativement bien, au-delà de toutes les études qu'on peut mener là-dessus. Alors, je voudrais dire une dernière chose, je crois que j'ai peut-être encore deux, trois minutes. La place de l'historien dans tout ça. Ben, au départ, il n'y avait pas d'historien dans tout ça. Au fond, tout ça s'est fait, c'était de la mémoire. Et l'histoire est arrivée lorsque nous avons décidé d'organiser à Limoges un grand colloque sur les enfants cachés, dont on vous a montré les actes tout à l'heure. Alors, vous savez, un colloque, c'est ce que je disais tout à l'heure à Corinne, d'habitude à l'université, c'est les étudiants qu'on y envoie parce qu'ils ont intérêt à y aller, quelques collègues qui viennent parce qu'ils sont sympathiques, et puis l'université du troisième âge, comme on dit très souvent, qui remplit les bancs du fond. Là, on a été très surpris. Non seulement on a rempli un amphi, mais on a rempli un amphi de gens qui venaient du monde entier pour un colloque qui s'appelait « Enfance juive », hein, qui était consacré aux enfants cachés. Et du coup, lorsqu'on a publié les actes, on a publié à la fois les actes du colloque classique et en même temps, si vous regardez cet ouvrage, tous les témoignages de gens qui finalement sont intervenus au cours du colloque, qui finalement a duré 3 jours. Alors, c'est une expérience qui m'a quand même frappé, dans la mesure où il y avait manifestement une demande. Il y avait une demande de ces porteurs de mémoire aux historiens pour qu'on les éclaire sur un certain nombre de choses. Et je crois qu'ils nous demandaient, au fond, 3 choses. Ils nous demandaient des remises en contact, c'est-à-dire qu'on les remette en contact avec la région dans laquelle ils avaient été dissimulés. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous nous employons à faire. Je disais hier à Philippe que moi, je gère 400 à 500 mails du monde entier par an pour ces remises en contact. C'est un travail en soi que j'arrive d'ailleurs plus à faire, que je fais faire à des étudiants parce que c'est aussi un travail extrêmement intéressant pour les étudiants que d'aller rechercher tous ces témoignages. Donc on est en train de constituer une base de données qui devient extrêmement importante. On organise aussi des rencontres régulières, c'est-à-dire qu'on veille à ce que les enfants, par exemple, des maisons de Lozé puissent revenir sur les lieux dans lesquels ils étaient. Et c'est extrêmement émouvant pour eux. Bon, je laisse de côté tout cet aspect-là, mais nous, c'est la venue soudain dans un lieu d'étude de 300 à 400 témoins. Et je ne vois aucune méthode historique aussi efficace que celle-là pour récupérer soudain 400 témoins du monde entier et pour les faire parler, pour travailler et pour que nous puissions travailler. Et puis, dernière demande que l'on nous fait, qui est une demande tout à fait différente, on nous demande maintenant une expertise, dont moi je n'avais jamais travaillé spécialement pour Yad Vashem, mais il est certain que maintenant, lorsqu'on arrive dans cette fameuse couronne des potentiels, il y a des problèmes qui se posent. Autrement dit, les dossiers ne sont plus assez solides. En tout cas, le process mémoriel classique ne suffit plus à la constitution d'un dossier solide. Et là, on fait appel aux historiens. Moi, j'ai à l'heure actuelle 2 dossiers à l'étude, et bien sûr, ce sont des dossiers particulièrement délicats, puisqu'il s'agit de 2 policiers. L'un, tout à fait remarquable, qui à partir de 1942 dissimule dans sa propre maison, en l'aménageant, en aménageant les combles, en aménageant des caches, en aménageant des trappes dans son garage, 12 ou 13 personnalités juives de l'entourage du rabbin Deutsch, mais qui jusqu'en 1942 est un policier qui fait son travail de policier. Bon. Et que fait-on de dossiers comme ça? Bon, et on a un autre cas qui est un gendarme en Dordogne. C'est exactement la même chose. À partir de 1942, il change complètement d'optique. Mais jusqu'en 1942, non seulement il fait son travail, mais en plus, il tient des carnets dans lesquels il explique bien pourquoi il faut faire son travail et comment il faut le faire. Et on est là sur cette marge, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces dossiers-là? Là, je crois qu'on pourra être utile, effectivement, en tant que professionnel. Sans que l'on pèse ensuite sur la décision, qui ne nous incombe pas, mais on peut au moins recontextualiser les lieux, les gens, savoir ce qui s'est passé et fournir, au fond, une expertise sur laquelle il faudra que nous discutions nous-mêmes d'ailleurs, puisqu'on se retrouve un peu dans le même cas que les historiens et la justice, mais c'est un autre débat. Quelle est notre place réellement dans tout cela? Moi, je dis que, pour l'instant, la place que l'on occupe permet en tout cas de récupérer ces dernières bribes de mémoire. Ça vient très tard, mais ça va très vite. Internet joue un rôle absolument considérable. Moi, j'ai encore reçu, il y a 2 mois, un témoignage qui vient d'Australie, de juifs qui étaient réfugiés en Haute-Vienne. C'est un témoignage qui est tout à fait remarquable. La mère des filles cachées a été à la prison de Limoges, etc. Bon, jamais on aurait récupéré ça il y a 15 ans, et même on aurait galéré terriblement pour avoir ça. Maintenant, ça fonctionne bien, et ça va donner un corpus qui, je crois, sera très intéressant et qui peut être exploité lorsqu'on va commencer à le mettre à disposition, justement, dans des classes ou au-delà de ces fameux dossiers de juste qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que là, on tient tous les bouts de la ficelle. Les dossiers de juste, vous verrez, doivent inviter à douter. Lorsque vous avez le dossier de juste et que vous avez tout le travail historique qui va autour, on a autre chose. Et là, vous aurez un vrai matériau pour travailler. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui de façon désordonnée, mais utile, j'espère.